Salut les auditeurs et auditrices, ça fait bientôt un an que les podcasts Réponse de mec et Réponse de meuf ont été adaptés en spectacle. Un spectacle interactif qui se joue tous les samedis à 18h à la Divine Comédie, c'est un théâtre à Paris. Ce spectacle, c'est l'occasion de prolonger les débats, d'étendre les discussions, d'exposer et d'écouter plein de points de vue sur vos questions et évidemment de se marrer. On finit la saison le 27 avril, ça veut dire qu'il faut que vous preniez vos places pour un des derniers samedis qui restent. Le lien est dans la description et au pire, faut taper Réponse de mec dans Billets Réduc. Profitez-en, hein. Les places sont vraiment pas chères et surtout, c'est les dernières. Après, c'est fini. Allez, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute et à samedi.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars.
Salut Pascal, salut Dan.
Yo, ça va les gars?
Ça va.
Ça va, ça va. Et bienvenue à toutes et tous dans cet épisode live qu'on fait pendant le confinement. Voilà, c'est le principe. On est confiné, donc on est reparti dans nos épisodes à distance. Et pour mettre un petit peu de nouveauté dans notre ligne éditoriale, on profite de ces épisodes pour interroger des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude d'interroger. Déjà, il y a des hommes. Et on s'est penché sur la communauté de gens qu'on suit et qui nous suit sur Instagram. Et donc, on reçoit notamment des Instagrammeurs dans ces épisodes. Tous les épisodes et tout notre podcast, vous pouvez le retrouver sur www.lesgentilshommes.fr. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous soutenir en nous aidant en participant au Tipeee. Dan, tu veux dire un
petit
mot sur Tipeee?
Bien sûr, non, mais Tipeee, c'est hyper important pour nous. Alors, je sais que on en parle souvent, mais c'est important, je pense, de le rappeler que ça nous permet, voilà, d'être un peu plus à la cool, de faire des petits déplacements comme on l'a fait récemment. On est parti à Lyon. Et voilà, et tout simplement, si vous trouvez que notre podcast est cool et que vous l'écoutez et que ça vous fait plaisir, pensez-y, donnez-nous peut-être 1 euro ou 2 euros ou 50 euros ou 100 euros par exemple.
Ça y est.
Donc voilà, n'hésitez pas. Toutes les infos sont sur tipeee.com, les gentilshommes, le lien, on le trouve de toute façon.
Le lien, il est dans notre bio Instagram. Donc la base de tout ça, c'est Instagram. Dans la bio Instagram, il y a le lien vers le Tipeee. Et Connie, tu devais dire quelque chose ou...
Sur le Tipeee, ça nous fait super plaisir. Par contre, moi, je vais parler de la hotline.
C'est la hotline.
Ouais,
voilà.
Maintenant, le lundi soir à 21h, on fait la hotline des gentilshommes en live. Venez vous exprimer. C'est un moment pour vous. Qui que vous soyez, quel que soit votre genre, où que vous soyez sur la planète, vous pouvez venir passer un petit coup de gueule, raconter une aventure, un point de vue sur quelque chose.
Faire un petit big up à quelqu'un, une copine, un copain.
Vous êtes fraîchement séparés, vous voulez faire un témoignage croustillant, vous voulez rompre en direct, ou faire une demande de mariage, on vous écoute.
C'est vraiment à la libre antenne, à l'ancienne là. Hein,
exactement.
Fait, hein. Donc, c'est ça qui est bon.
Exactement. Donc vous nous envoyez un petit message sur Facebook, Instagram, où vous voulez, et puis
sur Instagram.
Comme ça. Sur Instagram, oui.
Pas où vous voulez, parce que s'il envoie à un endroit où on ne lit pas, ça va être dommage.
Oui, mais il faudrait qu'il trouve un endroit où il ne lise pas, donc on est tranquille.
Donc c'est le lundi soir à 21h.
Ouais,
voilà. Puis écoutez aussi, hein.
Ouais, écoutez, et on attend vos propositions sur Instagram et sur Facebook. Lâchez-vous, quoi. On est là pour ça le lundi soir.
Ouais, faites-vous plaisir, merci.
Donc dans cet épisode aujourd'hui, on va recevoir un collègue, parce qu'il est podcasteur, il a aussi un compte Instagram et c'est Angelo du compte Balance Tapeur. Salut.
Hello Angelo.
Salut Angelo.
Salut, merci de me recevoir ce soir.
Et merci d'être avec nous. Qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter?
On a dit une partie. J'ai effectivement un compte Instagram qui s'appelle Balance Tapeur, que j'ai créé il y a 2 ans. Ceci n'étant pas forcément mon activité principale, ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est d'accompagner des individus, des hommes, des femmes, des groupes dans leur cheminement personnel et collectif. Ça passe par de la thérapie classique, on va dire, en cabinet, en individuel. Ça passe par des ateliers de groupe, des retraites de groupe, aussi des formats plus longs. Ça passe par évidemment le compte où je reçois des témoignages de gens sur leur peur, des abonnés qui sont OK pour partager leur peur et de me laisser un espace aussi pour leur offrir une lecture, un point de vue différent. Je ne suis pas là pour faire de la thérapie sauvage sur Instagram ou faire du coaching. Il y a le podcast qui a le même nom où là je prends un peu plus de temps avec mon invité où voilà, moi je parle aussi. J'ai écrit un livre, voilà, il y a un peu plus d'un an. Enfin, j'étais en écriture de ce livre. Il est sorti il y a un mois, qui s'appelle Les 21 peurs qui empêchent d'aimer. C'est un angle que j'ai pris parce que je trouvais ça intéressant de parler des peurs dans les relations, quelles qu'elles soient. Et puis, une autre grosse partie de mon activité, c'est la direction artistique et de la réalisation pour des artistes de musique. Donc, je produis des albums. De musique, voilà, quand il y a des projets qui se présentent, quand j'ai un coup de cœur dans l'année, quoi.
Oh, d'accord, c'est vachement chouette, dis donc. Et alors qu'est-ce que c'est Balance ta peur?
Balance Tapeur, c'est un compte Instagram que j'ai créé il y a 2 ans, qui se veut être avant tout un espace dans lequel les abonnés peuvent témoigner de leur peur, peuvent exprimer leur peur. Dans le cheminement que j'ai fait moi par rapport à ce travail sur cette émotion en particulier, cet objet d'étude, voilà, qui me prend pas mal de temps, je me suis rendu compte que effectivement, peut-être que le premier pas, c'était déjà de l'identifier et de l'exprimer, sa peur ou ses peurs. Donc le premier poste a été l'expression de mes propres peurs, ou en tout cas certaines, puis ça a donné envie à d'autres gens, des proches, des moins proches, des inconnus, de témoigner aussi. Et ça c'est aussi un espèce de ping-pong, même s'il n'y a pas d'échange direct, où finalement, moi, je vais m'inspirer et partir du témoignage pour pouvoir moi-même cheminer sur ce qui me semble être évoqué, ou même parfois complètement parler d'autre chose. Alors, des fois, j'ai des gens qui me disent, je comprends pas le rapport entre ton texte et la peur qui a été évoquée dans le poste. Des fois, il n'y en a pas. C'est juste que ça m'a fait penser à ça et que du coup, j'avais envie d'écrire là-dessus. Donc, c'est comme un peu un carnet de bord collectif, quoi.
D'accord. Très bien. Bah, disons, tu nous as raconté plein de trucs et il y a plein de trucs à creuser là. Par où on commence? Par où on commence? Déjà, on parle de peur. Si on essaie, on va essayer d'abord de comprendre ce que c'est que l'Instagram pour les gens qui ne connaissent pas, nos
Ouais.
auditeurs, nos auditeurs qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est et sur quelle peur tu travailles? Et comment ça se travaille tout ça?
Peut-être que tu as des exemples aussi concrets de peur, justement, c'est hyper intéressant, hein, mais...
Dans l'absolu, l'espace était ouvert à tout type de peur. Donc, c'est vrai que avec un certain nombre d'abonnés, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des peurs qui ressortent. Et c'est ces 21 peurs qui ressortaient pour moi, en tout cas au sein de la relation, que j'ai regroupées et étudiées dans ce livre. Après, je filtre pas, c'est-à-dire que il y a autant des peurs de la mort que des peurs d'être seul, que des peurs de pas retomber amoureux, que des peurs de pas être légitime au travail, que des peurs voilà de l'avenir par rapport au Covid, de l'effondrement, de la crise. Donc c'est assez ouvert, mais étonnamment, les peurs qui reviennent le plus sont quand même celles qui sont liées aux relations et notamment à ce qu'on pourrait très humblement appeler l'amour ou en tout cas les relations amoureuses, quoi.
Et comment ça se passe? Comment ça se passe un peu pour continuer sur qu'on comprenne? Il y a des gens qui t'envoient ils t'envoient des peurs, tu les mets, tu les publies, et puis on a vu, enfin moi j'ai vu que sur le côté il y a une forme d'analyse aussi, ça doit être ton côté, je sais pas comment on dit ton boulot, mais voilà, d'analyse
thérapeute,
de coach,
thérapeute, voilà, cherche
thérapeute, ouais.
le mot, voilà.
Mon boulot, le terme c'est psychothérapeute. Après,
Ah, ok, d'accord.
voilà, on peut mettre quand même beaucoup de choses dedans. Le principe c'est très très simple, c'est que les gens, les abonnés, écrivent leur peur. Après, c'est pas automatique que moi je la reposte et que j'en fasse une analyse. Parce que déjà il y en a beaucoup trop et que je peux pas poster à chaque fois que je reçois un message. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, comment ça a commencé pour moi, c'est que finalement, naturellement, je sélectionnais les peurs qui me parlaient. C'est-à-dire, ah bah tiens, c'est marrant, le mec m'écrit ça, je me lève aujourd'hui, je lis ça, je me dis, ah, Tiens, est-ce que ce serait pas aussi mon expérience du jour, hein, tu vois, cette peur-là. Tiens, en quoi ça me parle moi aujourd'hui? Et finalement, c'est devenu effectivement mon carnet de bord un petit peu où, au-delà d'analyser, comment dire, pour la personne, parce que évidemment que je peux pas faire ce travail-là à distance comme ça, j'analyse déjà ce que moi, à quoi ça me fait, à quoi ça me renvoie. Et puis surtout, j'essaie de faire une analyse qui renvoie dans le groupe, qui renvoie dans le collectif, quoi. C'est-à-dire que on part de quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir de quelque chose qui semble très 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 intime et individuel, et que finalement, la décortiquant et en parlant et en la postant, ça rend cette chose très individuelle très collective, quoi. Et ce qui est intéressant comme retour que j'ai la plupart du temps, c'est ah ben. Je me reconnais vachement, ou je me sens moins seul. Ou Donc en fait, c'est un peu le principe même, je trouve, que j'utilise même quand je fais de la DA ou quand je fais de la musique, c'est que finalement, je vais toujours dire à l'artiste qu'est-ce que tu as envie de dire, quel est ton propos qui est si personnel que ça peut devenir universel, quoi. Et c'est comme ça que je travaille, quoi.
Ah, c'est marrant, je comprends ce que... Nous, c'est un peu la même chose, on part de témoignages. Qui sont des personnages et des points de vue de personnes, ouais. qui racontent des choses précises sur leur vie, et on a plein de commentaires qui disent ah oui mais moi je me suis retrouvé complètement, et effectivement l'universalité des sentiments elle est étonnante. Ce que je note aussi, c'est enfin il y a une espèce d'effet cathartique, c'est-à-dire que quand même on a l'impression que tu travailles cet Instagram dans un but presque thérapeutique pour toi, ou au moins cathartique.
Alors peut-être que ça l'était au début, parce que c'est vrai que je partais beaucoup de moi, et au final c'est devenu presque plus sociologique, plus vraiment de l'ordre de l'observation, de... Moi je peux même, tu sais, sur Instagram tu as des statistiques aussi, tu vois, ce qui est intéressant par exemple sur le compte, c'est qu'il y a 13% d'hommes.
Combien?
13%.
Ah ouais.
Ah, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup.
Alors
hein.
Que tu te dis les peurs, a priori ça concerne à peu près tout le monde. Donc voilà, donc en fait il y a quelque chose qui est devenu très, enfin qui est passé du très personnel au finalement très sociaux, et voilà, en fait la catharsis elle se faisait au début. Maintenant je sais que j'ai affiné un petit peu aussi l'écriture, j'ai affiné mon analyse, et je suis un peu plus en position méta, ou en tout cas avec un peu plus de recul, justement pour que il n'y ait pas toujours la même chose aussi qui se répète, parce que comme les peurs reviennent. Si moi, à chaque fois, je dis « Ah bah oui, bah moi aussi, en fait, du coup, j'ai eu peur de me faire larguer, de machin. » Tu peux en faire un poste, mais tu peux pas en faire 10, quoi. Donc, pour varier le propos, c'était aussi l'intérêt, c'était que je sorte un peu de moi.
T'as peut-être plus peur maintenant?
Vraiment.
C'est vrai?
Ouais, bah, en tout cas, pas de ça.
Ah, c'est cool. Pascal, excuse.
Non, je t'en prie. C'est du coup, donc il y a eu un vrai cheminement pour toi avec ce compte, c'est-à-dire que tu réponds pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Comment t'as évolué en parallèle de ce compte? Comment ce compte t'a fait évoluer? Enfin, tu vois, ouais, de quelle manière ça s'est fait pour toi?
Bah, disons que c'est vrai qu'au départ, pourtant ça fait pas très longtemps, tu vois, ça fait 2 ans, mais disons que la première année, j'étais plus dans une phase de développement, de curiosité, de découverte, et donc bah oui, sur 1 an les témoignages étaient assez variés. Moi j'ai aussi en parallèle beaucoup bougé dans ma vie professionnelle, privée, enfin dans ma vie en général, et en fait le truc qui a été un peu révélateur, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même, encore une fois, beaucoup de peurs qui revenaient, beaucoup de peurs communes, et je me suis dit ton truc il peut tenir 1 an comme ça, mais au bout d'un moment, en fait, enfin, je te jure que parfois j'ai des témoignages, tu peux les mettre côte à côte, c'est presque au mot près, en fait. Donc je me suis dit ce qui va faire la différence, c'est les petites nuances dans les témoignages que moi je vais pouvoir dont je vais pouvoir me servir comme point d'appui pour parler peut-être d'un sujet qui est plus large que la peur. Comme par exemple, je ne sais pas moi, si c'est une peur qui est liée aux relations amoureuses, ben je ne vais pas juste, de manière très très large, parler des peurs liées aux relations amoureuses. Je vais regarder, tiens, quelle est la situation dont la personne parle, quelle est la nuance par rapport à tel ou tel témoignage que j'ai reçu. Et dans ces cas-là, moi, ça m'amène à digresser beaucoup. Donc en fait, c'est aussi ce que je fais dans mon boulot, et au final, c'est plus proche de moi aujourd'hui, quoi. Dans ma pratique, quoi.
Tu, tu parles de relations amoureuses.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as vu revenir le plus souvent comme peur dans les relations amoureuses?
Je dirais dans le top 10.
Ouais, vas-y.
Dans le top 10, il y a la peur de ne pas trouver quelqu'un, déjà.
Ouais.
Y a des personnes qui sont célibataires depuis longtemps ou qui n'ont pas été en relation depuis longtemps et qui se sont peut-être habitués, qui sont rentrés dans une espèce d'habitude ou de routine avec une difficulté récurrente à rencontrer. Donc il y a la peur de ne pas rencontrer quelqu'un.
Mais si je peux juste revenir sur cette peur, ils ont peur d'une situation qu'ils sont en train de vivre puisqu'ils sont célibataires.
Ouais, mais sauf que la formulation est telle qu'ils ont peur de quelque chose qui, si tu veux, quelque part, en la formulant de cette façon, le cerveau, entre autres, et le corps et tout le reste, se conditionne aussi pour que ça reste un peu comme ça, si tu veux, que la situation...
Tu veux dire le fait d'avoir peur, ça conditionne l'entretien de la condition, en fait, c'est-à-dire que...
Complètement. Ça, c'est valable pour n'importe quelle peur. C'est-à-dire que, évidemment, que quand tu investis ton énergie psychique, émotionnelle, physique, etc., sur plutôt la peur, plus que le désir, le projet, l'intention, l'envie, la volonté, peu importe, bah forcément, en fait, si tu veux, le circuit est toujours le même, le chemin est toujours le même, et donc, en fait, parce que la personne, elle a très très envie de sortir de cette peur et de résoudre sa situation, sauf que cette envie, finalement, elle ne fait que nourrir la peur, quoi, et donc nourrir les situations qui vont finalement contribuer à ce que cette peur se fige. Quoi.
D'accord. Tu as quoi d'autre dans le top 10 des peurs liées aux relations amoureuses ?
Il y en a une qui est proche de celle-là, c'est la peur de ne pas trouver la bonne personne. Alors là, on est sur vraiment un truc qui revient le plus souvent. Voilà, donc on est sur encore quelque chose d'une sorte de croyance culturelle assez large, assez répandue. Qui serait qu'il y aurait une bonne personne, qu'il y aurait la bonne personne pour moi, une âme sœur ou flamme jumelle ou peu importe comment on veut l'appeler.
Qu'est-ce que tu en penses de ça quand on vient et on te dit ça, j'ai peur de ne pas trouver la bonne personne, comment
moi,
tu réagis?
Tu vois par exemple là typiquement sur un sujet comme ça, je vais plutôt travailler sur la notion de bonne personne ou la bonne personne plutôt que de travailler sur la peur. En gros, la plupart du temps maintenant, ce que je fais, c'est que je travaille pas tant sur la peur, mais je travaille sur la croyance qui est en dessous, le système qui est en dessous, la structure de pensée qui est en dessous. Et donc, ça passe par, évidemment, les mots qu'on choisit pour formuler ce qu'on ressent, comme la peur de pas trouver la bonne personne. Et donc ça nous dit des choses, déjà, sur la façon dont on envisage le monde, dont on perçoit son environnement ou dont on l'interprète. Donc, cette croyance qui est qu'il y aurait une bonne personne, bah, je vais travailler dessus justement plutôt que de travailler sur la peur. Et donc cette notion de bonne personne, ça peut être plein de choses, mais si tu veux, le premier blocage, ça va être de statuer là-dessus, quoi, en fait, de simplement juste statuer sur cette idée. Et ce que moi j'ai tendance à dire, c'est qu'en fait il y en a plein des bonnes personnes, voire même qu'elles sont toutes bonnes dans l'absolu. Je vais plutôt faire ce décalage-là. Tu vois, je vais pas dire, oh bah non, t'es con, y a pas de bonne personne, machin. Je suis pas dans le jugement. Je suis plutôt dans le décalage et dans, bah tiens, est-ce que peut-être t'aurais envisagé ça comme ça, quoi.
Ok. Ouais, c'est marrant parce que moi, je me serais dit, oh, excuse-moi, Dan, t'avais beaucoup de questions.
T'inquiète, vas-y.
Ouais, c'est marrant parce que tu vois, face à une peur, moi, je me serais dit, bon, bah, soit je la combats, soit je la fuis. Et en fait, c'est marrant parce que là, de ce que tu dis, y a un autre chemin. Il y a un espèce de chemin détourné qui est tu vas pas la fuir, mais tu vas pas la combattre, par contre tu vas la feinter et tu vas te dire ah ouais mais attends, c'est pas ça le truc, il est là, tu vois. Et c'est marrant parce que ça voudrait dire qu'en fait toutes ces peurs que ces personnes ont et qu'on a tous, c'est un espèce de voile. Il y a un objet, il y a pas la bonne personne, à la peur de pas la bonne personne, mais en fait, la peur est un voile par rapport à l'objet de ce qu'on veut.
Et... Alors, ouais, complètement, la peur est un énorme voile, voire c'est un film hollywoodien. C'est-à-dire que la plupart des gens, moi souvent, je leur dis en atelier, vous êtes des sacrés scénaristes parce que vous faites un délire qui prend racine dans votre psyché, qui semble totalement réel, alors qu'au final, dans l'instant présent, dans la situation présente, elle n'a pas de, elle n'est pas matérialisée, si tu veux. Mmh. On a toujours peur de quelque chose qui n'est pas en train d'être là, en fait. Parce que ce qui est intéressant dans la peur, c'est que avant d'être une peur, c'est un système de survie. C'est quelque chose qu'on a tous en nous, c'est l'instinct de survie, et ça, c'est même pas une peur, c'est-à-dire que c'est un réflexe neurophysiologique pour voilà, notre propre sécurité, notre autoconservation. Et donc, la peur, elle devient une peur, c'est-à-dire elle devient une émotion, à partir du moment où il y a le film qui commence à se mettre en route, et où là, on a l'espace nécessaire pour se rendre compte qu'on a peur de ça. Mais si tu regardes bien, au moment où il y a un danger immédiat et quand tu es dans l'action, il n'y a pas la peur, il y a l'action. C'est-à-dire soit la fuite, soit l'attaque, comme tu disais, soit se débattre, soit tu vois, l'assidération. C'est le corps qui parle avant. Et donc, quand la peur devient une émotion et donc quand elle devient psychologique, c'est-à-dire une espèce d'histoire que je me raconte, à partir de ce moment-là, effectivement, ça ne sert à rien de travailler sur la peur.
Angelo, tu parlais tout à l'heure du fait que tu as été, enfin TDA aussi en même temps, toujours, ouais. Hein, c'est ça que tu disais. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir ces deux activités. Tu as commencé toi dans la musique, c'est ça, non?
Ouais.
Et tu as développé après ton activité de thérapeute.
Oui.
Comment t'en es arrivé là? C'est vrai que c'est original d'avoir ces deux facettes. Et est-ce que c'est justement ton travail avec les artistes qui est un moment où tu t'es dit, tiens, il y a un truc à creuser, ou est-ce que c'est deux passions que tu avais déjà à la base?
Alors, c'est marrant parce que enfin, si tu veux, chronologiquement, j'ai commencé par la musique, mais de manière totalement, volontaire. C'est-à-dire que c'est mes parents qui m'ont mis dans une école de musique quand j'avais 5 ans, quoi. Donc, j'en ai fait, et puis voilà. Et puis, bon an, mal an, ça allait, et j'ai appris à jouer, à faire de la musique, quoi. Et puis, j'ai continué, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait beaucoup d'études sur l'esthétique aussi, donc des études d'art, ce qui m'a beaucoup apporté aussi dans la musique. Et en fait, le bac, je l'ai choisi parce que le bac L, je l'ai choisi parce que à l'époque, je voulais faire de la philo et de la psycho. Donc c'était déjà très présent, c'est-à-dire que je me suis toujours posé beaucoup de questions sur pourquoi ça fonctionne comme ça, quoi, comment les humains fonctionnent, pourquoi la Terre, pourquoi la vie, pourquoi tout ça, quoi. Et si tu veux, ça me paraissait tellement abstrait de me lancer là-dedans à 18 ans que je me suis plutôt orienté sur voilà, une fac d'histoire de l'art, de la littérature, des choses sur lesquelles je pouvais m'appuyer un petit peu plus et qui étaient pas trop engageantes par rapport à l'âge que j'avais, quoi. Et puis bah forcément après ça a roulé un peu plus dans la musique, etc. J'ai fait les albums que j'ai fait et disons que c'était à la fois parce que moi j'avais eu à un moment donné de ma vie extrêmement besoin d'être accompagné du point de vue thérapeutique, et en même temps j'avais ma carrière de musicien et de compositeur et de réal. Et en fait les deux en même temps ont fait que à la fois je cheminais personnellement et je sentais que ce que je faisais comme thérapie ça m'aidait, et j'avais aussi besoin de comprendre pourquoi ça m'aidait. Comment ça se fait que ça me fait du bien? Comment ça se fait que ça m'aide? Comment ça se fait que j'ai changé alors que c'est clairement pas spectaculaire, tu vois, une thérapie? Et en même temps, je rentrais beaucoup, beaucoup dans l'intimité, dans la relation avec les artistes, parce que dans mes études d'art, moi, là où j'étais très fort, c'était pas pour analyser l'œuvre, mais pour analyser la psychologie de l'artiste. Et donc, j'arrivais à analyser l'œuvre parce que j'arrivais à plus ou moins comprendre le contexte dans lequel l'artiste avait créé. Ce qui faisait que j'avais une lecture de l'œuvre un tout petit peu plus large que juste le tableau ou que juste le livre ou que juste la photo. Et donc tout ça combiné a fait que finalement c'était à la fois effectivement la psychologie, de l'esthétique et la recherche de tiens, un artiste finalement, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a vécu pour qu'il s'exprime de cette façon, pour qu'il exprime ça de cette façon. Et donc pour moi en fait c'est la même chose, c'est le même boulot, quoi.
Ah ouais, c'est hyper intéressant. Tu sais s'il y a d'autres justement gens qui sont, enfin d'autres personnes qui sont comme toi dans les deux domaines? J'ai l'impression que c'est assez rare, non?
Il peut y avoir des personnes qui vont peut-être aller vers l'art thérapie, ce qui est pas mon cas. Donc la thérapie par l'art ou l'expression artistique. Non, moi en fait, ce qui est marrant, c'est que au final, je fais pas de la thérapie pour les artistes non plus, mais ma façon de produire un album va passer par toute une phase préliminaire, si tu veux, de cet échange, de comprendre ce qui se passe dans sa, dans sa psyché, dans ses émotions, etc., pour être au plus juste par rapport à quelle forme ça doit prendre, quoi. Et au final, la création de la forme, ben, c'est ce qu'on fait en thérapie, quoi. C'est, on donne forme, on accompagne la personne à donner forme à quelque chose, quoi.
J'aimerais bien revenir sur les relations amoureuses. Pardon. Dans le monde, dans la société dans laquelle on vit, qui est vraiment de plus en plus anxiogène, en plus en cette période de Covid et tout, est-ce que tu as vu un impact de tout ce qu'il peut y avoir, les médias, de tout ce qui pourrait être anxiogène, sur les relations amoureuses et sur les peurs liées aux relations amoureuses?
Je pense que ce qui a eu le plus d'impact dans ce contexte actuel, c'est pas tant les médias pour les relations amoureuses, hein. Les médias ont un impact sur d'autres choses, mais plus le confinement. Le confinement, l'impossibilité de créer des liens sociaux, l'impossibilité de voir des proches si on n'habite pas avec eux. Ça a un impact. Moi, j'ai des patients qui viennent, qui sont là depuis un an, deux ans, trois ans, on travaille sur leurs problématiques, et puis là, ponctuellement, il y a ouais, mais là c'est dur parce que en fait je peux toucher personne, je peux voir personne et je peux rencontrer personne.
Ça se traduit en quelle peur, ça, le fait de pas pouvoir toucher les gens, etc. C'est quoi? C'est la peur que ça puisse pas se reproduire.
En fait, pardon, vas-y. En fait, quand tu m'as posé la question tout à l'heure sur les peurs, ce qui m'est venu, c'est pas tant que c'est de la peur, en fait. Tu sais, je te disais la peur, voilà, c'est un système de survie, et puis à un moment donné, ça devient une émotion quand le film est en route. Mais finalement, en fait, les gens disent peur, alors qu'en fait, le vrai truc qui est en dessous, c'est frustration.
Ah. Vas-y.
Quand on dit j'ai peur de ne pas trouver la bonne personne, c'est je suis frustré, et je me sens frustré de ne pas trouver la bonne personne. Finalement. C'est ça le ressenti en dessous la peur, ou en tout cas en dessous l'expression de la peur. Quand on dit, je suis en plein Covid, c'est compliqué de faire des rencontres, ça me fait peur, j'ai peur de finir seul. C'est pareil au final, c'est je suis frustré de ne pas vivre une relation, de ne pas être en contact physique, de ne pas être dans un lien, etc. Donc,
pourquoi ils confondent? Pourquoi ils confondent?
Parce que je pense qu'en termes de langage, d'habitude de langage, la peur nous déresponsabilise.
Ouais.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que je pense que de ce que j'ai pu observer, c'est beaucoup plus répandu de dire j'ai peur de ça que je me sens frustré de ça.
Par exemple, on entend beaucoup, nous, dans le podcast, il a peur de s'engager.
Ouais.
Alors ça, on l'a entendu, mais un nombre de fois.
Ouais.
Plus il d'ailleurs que elle, je veux pas genrer, je veux pas trop genrer.
Non, mais je te rejoins.
Qu'est-ce que ça veut dire, il a peur de s'engager?
Ça veut dire que quelque part, il est en train de s'imaginer ou de projeter l'éventuelle frustration de ne pas être libre de faire ce qu'il veut.
Ouais.
Parce que l'engagement nécessite un choix, le choix nécessite un renoncement. Donc, si tu veux, il y a encore cette frustration en dessous, projetée ou réelle. Donc, réelle, quand tu sais, j'ai peur d'être seul. Bah, en ce moment, je suis frustré de ne pas être en contact, en lien avec quelqu'un. Mais si c'est j'ai peur de m'engager, quelque part derrière, en fait, ce qui est projeté, c'est j'ai peur de m'engager parce que finalement, je vais peut-être me sentir frustré de ne pas pouvoir faire tout ce que je veux alors que je me suis engagé. Et donc, forcément, derrière, de faire le choix de ne pas m'engager.
Donc en fait, la bonne réponse, ça serait quand il dit à la fille, il ne devrait pas lui dire « j'ai peur de m'engager », il devrait lui dire « je ne veux pas être frustré de ne pas être libre avec toi, en fait ».
Exactement. Mais c'est le cas de la génération des millennials. Hein.
Ah bon ?
Ah bah oui.
Il parle comme ça. Pardon, je fais le vieux là. Mais...
Il parle comme ça et surtout, en fait, c'est une génération qui est née avec Internet.
Ouais, et alors ?
Moi, je ne suis pas si vieux, mais je suis assez vieux pour avoir vécu des années sans téléphone portable et sans Internet.
Ah.
Donc, tu veux dire que ça ouvre le champ des possibles et tout ça, enfin ?
Complètement. C'est-à-dire que le fait d'avoir un accès illimité et presque immédiat à l'autre ou à l'information augmente le choix et donc augmente la frustration et donc augmente l'impossibilité de renoncer ou de s'engager, quoi.
ou la difficulté en tout cas de ça. Enfin, le fait que ça, cette difficulté est plus grande.
Bah oui, oui, bien sûr.
Mais du coup, c'est quoi la solution justement si on prend cet exemple-là
Ah bah c'est de revenir comme avant, un mariage forcé, patriarcat.
Exactement.
Ça, ça fonctionne au moins. Tu sais que tu restes à vie pour, avec la même relou, et puis.
Tu te complais dans ta situation.
Voilà, quoi. Tu fais des enfants pour qu'ils s'occupent de la ferme, et puis tu vas jouer au bridge avec tes copains pendant que ta femme elle est au foyer.
Ah, là, au moins, t'as plus la frustration qui est liée au fait d'avoir peur de pas rencontrer la bonne personne.
Ah ouais, c'est ça. C'est quoi ta question? La solution à ce...
Non, mais je disais la solution à ne pas être frustré. Par exemple, si on prend l'exemple là tu as tous ces mecs qui nous... Enfin, ces filles qui nous disent, les mecs qu'elles rencontrent, bah, ils ont peur de s'engager.
Ouais.
Du coup, je me demandais s'il y avait une solution justement pour moi.
Alors,
mais
non,
peut-être pas de solution magique, a priori, je pense.
Déjà, il n'y a pas de solution magique. Et en plus, je pense que ce ne serait pas une solution. Je pense que chercher une solution pour ne plus être frustré, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que, en fait, le cheminement personnel, il se fait aussi sur l'apprentissage de la frustration. L'apprentissage quand tu es enfant que tu veux tel jouet, non, ce ne sera pas possible aujourd'hui ou peut-être pas du tout. Et en fait, c'est comme ça que l'enfant, petit à petit, il apprend le réel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, qu'il faut faire des choix, qu'il faut faire des renoncements, etc. Et donc, en fait, chercher une solution pour ne plus être frustré, ce serait rester dans une espèce d'état infantile, tu vois, où en fait, on considérait que la liberté, c'est faire et avoir tout ce que je veux, ce qui est fou.
Tu veux dire que ces jeunes hommes qui ont refusé ou qui ont peur de s'engager, ils sont encore dans l'état infantile, quoi. Ils n'ont pas grandi.
Bah, oui, alors nous, on aime bien en thérapie, ou en tout cas en psychologie, dans certaines études, on aime bien dire que finalement, ce n'est pas tant qu'on a un âge en particulier. Par exemple, moi, j'ai 35 ans. Je n'ai pas que 35 ans. J'ai aussi 0 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette conception du temps, c'est qu'on ne passe pas d'un âge à un autre. On accumule des âges. Mais ça veut dire que l'enfant de 1 an, il est encore là, celui de 2 ans aussi, celui de 15 ans aussi, celui de 25 ans aussi, etc. Et donc, dans ce genre de situation, ce qui est intéressant, c'est de se demander, mais quel âge a la personne qui est en train de parler à ce moment-là?
Bah moi, on me dit souvent que j'ai 20 ans, quoi, par exemple, même 15.
Mais moi aussi, mais parce que...
C'est vraiment cool comme théorie. Quoi.
Physiquement, en plus, je ne fais pas mon âge, donc c'est pareil. On m'appelle jeune homme et j'ai envie de dire, mais je suis plus vieux que toi.
Est-ce que, Angelo,
ouais.
Nous, on aborde souvent la question de l'ouverture au dialogue. On s'est rendu compte, on sait que le dialogue... dans le couple ou partout d'ailleurs, c'est vraiment un outil incroyable pour vivre ensemble, pour se comprendre, pour se respecter, etc. Mmh. Est-ce que l'ouverture, la peur et la peur dans le couple,
ouais.
Il y a un lien avec l'ouverture au dialogue? Est-ce qu'il y a des ponts qui se font? Est-ce que l'ouverture au dialogue peut avoir quelque chose à jouer?
Oui, alors bien sûr que dans une grande majorité des cas en sexothérapie ou en thérapie de couple, ce qu'on peut observer, c'est que c'est surtout un problème de communication. Mais ce problème de communication, c'est pas juste allez, on se met à dialoguer, on se met à se parler, on se met à se dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce dont on a envie, ce dont on a peur, etc. La difficulté quand on est en relation, c'est que en fait, il y a tout ce qui va être, on appelle ça intra-psychique, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout ce qui me concerne moi que je vais mettre dans la relation. Et donc, en fait, le dialogue peut ouvrir certaines voies, peut créer un lien plus fort, plus authentique, etc. Mais il est nécessaire en amont de pouvoir discerner ce que moi je mets dans la relation et ce qui appartient à la relation en tant que telle. Des fois, il n'y a pas de problème dans la relation. Mais il y a un problème entre les deux personnes. Parce que je suis pris par telle ou telle chose personnelle et la personne en face est prise par telle ou telle chose personnelle. Et la relation sert un petit peu de terrain de jeu, voire de champ de bataille parfois.
Ça voudrait dire que faut pas, si on a des peurs, il ne faut pas forcément toutes les dire à la personne avec qui on est.
Je pense que globalement, il ne faut pas tout dire à l'autre.
Ouais.
Je pense que ce qui est intéressant, c'est...
Dan, t'as un boulevard là.
C'est important, ça. C'est important.
Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, on peut avoir cette espèce d'absolu, d'idéal, de dire oui, nous, on se dit tout, etc. Mais moi, j'ai envie de dire quid du jardin secret, de l'intimité. C'est quoi l'intimité? C'est ce qui m'appartient.
Mais du coup, ce jardin secret, justement, c'est, enfin, ouais. ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on dit pas, ou il y a des choses qu'on, c'est-à-dire qu'on fait,
oui, mais c'est
et
pas
qu'on
ne
dit pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Non, mais Dan, vas-y, pose-la la question.
Non, non, mais
c'est... Non, la question qu'il veut poser, c'est est-ce que si tu trompes ta femme, il faut lui dire ou pas? C'est tout.
Alors là, voilà, c'est toi qui poses cette question, Conny.
Je suis incapable de te répondre.
Non, non, on rigole.
Non, mais évidemment que la question, elle se pose. La question, elle se pose parce que quand je dis jardin secret, tout de suite, c'est ah oui, mais du coup, la tromperie, trahison, mensonge, etc., ou omission, tu vois. C'est pas, je suis pas en train de dire qu'il faut avoir des secrets. Quand je parle de jardin secret, c'est aller à l'encontre de la tendance actuelle et souvent dans les couples, qui a été accélérée par les réseaux sociaux et par Internet, qui est l'immédiateté de la communication. Il y a des choses qu'on a besoin d'élaborer dans notre coin, qui ont besoin de temps pour s'affiner, pour mûrir, tu vois, pour progresser. Et quand je dis secret, enfin jardin secret, c'est pas tant d'avoir des secrets, mais c'est plus d'avoir son intimité, de se dire, bah tiens, voilà, là, ce que je ressens, ou ce que je pense, ou ce que je vis, ok, je le contiens, je le garde pour moi. Et c'est toujours dans la même logique que de contenir la frustration et d'apprendre justement à pas tout déverser sur l'autre, comme on peut le voir dans les forums ou dans les réseaux, quoi.
Oui, c'est-à-dire de garder des trucs un peu pour soi, oui, oui, comme tu dis, et de pas forcément tout... Oui, c'est vrai que tu l'as bien dit, ouais, de pas tout déverser.
Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, je trouve ça très intéressant. Et il y a juste, si je peux revenir sur quand tu as parlé de jardin secret et que tu as émis ce que chacun pouvait imaginer que l'autre pouvait mettre dans son jardin secret, et est-ce que c'est pas ses propres peurs à soi en fait? C'est-à-dire que l'autre va dire jardin secret et nous, on va le remplir de nos peurs à nous, son jardin secret, en projetant ça, alors que ben, c'est une projection et c'est totalement erroné.
Ouais, alors ça peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire que parfois, il y aurait beaucoup de conflits qui se résoudraient si on était capable de dire, ah bah tiens, en fait, je t'ai gueulé dessus, mais en fait, c'est parce que j'ai peur de ça. Là, ça change tout dans l'énergie, tu vois. C'est, ah ok, t'as peur de ça, putain, mais je savais pas, ok. Bah. Et là, étonnamment, il y a un dialogue qui peut se créer. Ouais. Après, effectivement, nous, chacun dans notre coin, à nous de... tu vois, ça s'appelle jardin secret. Le jardin, c'est quoi? C'est un endroit où tu fais pousser des choses, quoi. Et donc, bah, ça, il faut du temps pour que ça pousse, il faut du temps pour que ça grandisse, pour que ça mature. Et donc, dialoguer en exprimant ses peurs, certes, ça peut nous sortir d'un conflit, ça peut nous rapprocher même, mais pas forcément toujours dans l'immédiateté, tu vois, de l'instant. Peut-être que ça peut être un peu élaboré, peut-être que ça peut s'affiner.
Il faut prendre le temps de bien le faire, quoi.
Ouais.
Très bien.
J'ai une petite dernière question, si je peux.
Bien sûr.
Est-ce qu'on aime se faire peur aussi? Et dans le couple, par exemple?
Je pense que c'est pas la peur, je pense que c'est l'excitation qu'on cherche. Quand tu dis on aime se faire peur, pour moi, ça a encore un rapport avec un jeu d'énergie entre frustration, excitation et non-résolution volontaire d'une frustration, c'est-à-dire on garde cette tension. Nous sommes des êtres vivants, donc nous sommes en permanence en train de tendre vers quelque chose, d'être en mouvement vers quelque chose. Tu vois, même quand on est en train de méditer sans rien, on est quand même en mouvement. Et si tu veux, pour moi, se faire peur ou aimer se faire peur, ce serait effectivement dans une perspective de générer la tension qui est nécessaire pour qu'il y ait par exemple du désir. On va à une soirée avec ma copine et ce soir on se dit que elle a le droit de draguer qui elle veut, mais juste de draguer, tu vois. Et ben pour moi ça c'est aimer se faire peur, c'est-à-dire que c'est déjà un choix et un projet de couple, c'est-à-dire qu'on le fait ensemble, on le choisit ensemble, on consent ensemble. Et à ce moment-là, bah, ça va créer une tension, il peut y avoir un peu de jalousie, un peu d'observation, un peu de défi, un peu de remise en question, etc. Découvrir aussi une facette de la personne qui est en train de faire ça, qu'on n'a pas l'habitude de voir. En fait, là, à ce moment-là, effectivement, ça peut être aimer se faire peur. Mais pour moi, ça parle d'une tension qu'on a envie de créer pour dynamiser quelque chose, quoi.
Mmh. Ok.
Très bien. Okay.
Tu disais que tu nous as parlé de ton livre là qui est sorti, je crois, il y a quelques jours en fait, à peine, c'est ça, hein?
C'est quelques semaines, deux trois semaines.
Du coup, est-ce que tu peux juste nous dire un peu ce que les gens peuvent y retrouver?
En fait, c'est un livre qui s'appelle Les 21 peurs qui empêchent d'aimer, entre parenthèses, et d'être aimé. C'est un livre qui se veut complètement pas du tout un mode d'emploi pour les relations ou une recette de cuisine. En fait, c'est vraiment issu du conte où je suis reparti des témoignages qui étaient les plus forts et qui étaient les plus représentatifs des peurs que j'avais regroupées ensemble, qui étaient les peurs les plus récurrentes, quoi, donc les 21.
Et par contre, c'est vraiment sur la relation amoureuse, quoi. Enfin, sur l'amour, quoi, parce que comme tu dis,
c'est sur la relation à soi.
Ah oui, ok,
la relation à l'autre.
C'est s'aimer aussi soi, quoi. Ouais.
Ouais, exactement. Si tu veux, il y a toute une première partie où je vais expliquer plein de choses un petit peu contextuelles et théoriques sur la peur, dont ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. Une deuxième partie où il va y avoir les témoignages avec un peu le même principe, avec une phrase clé, et puis là, un texte qui est un peu plus élaboré que sur Instagram, évidemment, où je rentre plus dans le détail. Et puis une troisième partie qui est une ouverture sur ce qui est un peu plus. Une ouverture, non pas pour dire quoi faire ou de conseils, mais plutôt sur un peu une autre perception, une autre philosophie des relations et de soi dans la relation. C'est un livre qui a pour vocation, si tu veux, de plutôt nous aider à éventuellement enlever certaines couches qui nous empêchent, comme disait Connie, les voiles. En fait, ça nous permet plutôt de retirer des choses plutôt que d'accumuler des techniques ou des conseils ou des actions à mener.
Bon, c'est cool. C'est un joli programme, en tout cas. Ouais. en tout cas, on peut les auditeurs peuvent le retrouver un peu partout, j'imagine.
Ouais, dans toutes les librairies.
Ouais.
On va dire aujourd'hui plutôt en ligne.
Quel cynisme.
Mais en tout cas, ils peuvent le retrouver, ils le retrouveront dans les librairies.
Oui, et puis ça s'achète en ligne, j'imagine.
Voilà,
on est en 2020.
Ouais, bien sûr.
Il suffit de le commander en ligne sur votre site, sur le site de votre libraire.
Il y a le click and collect que tous les libraires ont mis en place.
Voilà,
où on peut choisir, l'acheter en ligne et puis après aller le chercher chez son libraire.
Très bien.
Bon, super.
Eh ben merci beaucoup, Angelo pour ton temps, merci et salut à tous nos auditeurs. On vous invite à aller et sur le compte Instagram de Balance Tapeur et écouter le podcast. Connie, un dernier mot?
Oui, on en profite parce que pour une fois on peut citer tous les tipeurs qui nous suivent. Là c'est pour le mois de novembre, on y va, je me lance. Merci, un infini merci à Leslie K, Mathis 33, Julie 390, Charlotte 128, Billy 10, Anne-Charlotte 4, Quentin Ricard, Laura B, Flovely, F Antoine après 5D570E, Guga,
c'est que des nouveaux tipeurs, c'est génial.
C'est que des nouveaux.
Noms que j'avais pas entendus, c'est super.
Do AA, Laure, ABC, Cédric, Amanda, Shop Shop.
On la connaît.
Anne, Mickey, Valentin, Ubzero, Sophie, Telkmar. Ça, c'est des vieux de la vieille.
Hein, merci les gars. Merci les filles d'être là.
Merci
quoi.
À ceux qui
Florence, Charlotte CB, Mathilde et Jimmy. Merci beaucoup.
Merci
à tous.
Et on se retrouve lundi pour la hotline.
Carrément, on sera là.
Envoyez-nous les DM sur Instagram. Puis c'est ouvert à tout le monde. Hein, vraiment, c'est la libre antenne à l'ancienne. Venez nous raconter tout et n'importe quoi. Et on est là pour se marrer pendant la demi-heure de hotline du lundi soir.
Ouais, exactement.
Allez, à bientôt.
Merci Angelo.
Merci Angelo, à bientôt, ciao.
Merci les gars, ciao.